Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous économique du Cercle Turgot qui nous donne le plaisir d'accueillir deux économistes du Cercle, François Meunier, bonjour François.
Bonjour.
Et Pierre Sabatier qui est président de PrimeView. Alors François Meunier, vous êtes l'ancien directeur général adjoint de la COFAS et ancien président aussi de la DFCG. Et vous animez le blog de la DFCG, dont les coordonnées, vous pouvez peut-être nous les donner, c'est DFCG quoi ?
Le blog du directeur financier qui est sur www.dfcg-blog.org.
Parfait, donc voilà pour ce rappel. Vous êtes tous les deux des auteurs connus, des chroniqueurs tout autant connus. Et vous venez d'ailleurs de participer et de contribuer fortement au nouvel ouvrage du Cercle Turgot qui va paraître tout à fait début janvier. Grandeur et misère de la finance moderne, c'est tout un programme. Bravo à vous et donc rendez-vous début janvier pour parler de cet ouvrage. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un double thème sous forme d'interrogation. L'Europe fait-elle fausse route ? La France peut-elle être la seule à avoir raison ? En fait, c'est les deux visages d'une même problématique économique et nous allons immédiatement rentrer sur ce domaine. Alors je me tourne vers Pierre Sabatier qui, lui, a fait paraître sur son site PrimeView une étude assez fournie sur ce sujet, où vous considérez que le contraste entre les politiques en Europe est devenu patent. D'un côté, quasi unanimement, rigueur budgétaire, et de l'autre, une position de la France qui semble s'arc-bouter sur un modèle très contesté par ses partenaires, où la dépense publique stimule la demande intérieure et entretient des déséquilibres, des échanges colossaux. Alors, Pierre Sabatier, première réflexion sur ce thème avant de passer la parole à François Meunier.
Merci Jean-Louis, bonjour à tous. À la question « L'Europe fait-elle fausse route ?», cette interrogation, elle n'est quand même aujourd'hui du constat du relatif échec des politiques économiques qui ont été mises en place en fait depuis maintenant 5 ans pour certaines et on va dire plus généralement depuis 2 ans pour l'ensemble des pays de la zone euro et je pense notamment à l'Italie et à l'Espagne. Pourquoi ? Donc le constat initial, c'est qu'on regarde, tout le monde nous dit « la balance des comptes courants des pays en difficulté est en train de se rétablir ». Alors oui, effectivement, mais lorsqu'on va fouiller et on essaye de comprendre comment cette balance de comptes courants se rétablit, on constate en fait c'est essentiellement via la dépression et la déprime de la demande intérieure italienne et espagnole, plus que par le gain de part de marché aujourd'hui des entreprises espagnoles ou italiennes, puisque lorsqu'on regarde l'évolution des exportations depuis le début de l'année, on est globalement en négatif pour l'Italie et on est à peine plus élevé que plus 2% sur l'économie espagnole, en dépit d'une déprime en termes des coûts unitaires de travail extrêmement importante donc, en Espagne, dans notre voisin du Sud. Voilà, donc ça c'est la première constat en fait qui fait, on s'interroge, est-ce que c'est la bonne route ? Et quand on dit est-ce que c'est la bonne route, c'est qu'il y en a une autre. Et aujourd'hui, en réalité, l'antimodèle n'est pas la France, puisqu'on est un peu au milieu, nous on subit. On va dire c'est plus notre absence de décision qui fait qu'on hésite à s'orienter vers de la rigueur budgétaire. Je dirais que l'antimodèle, c'est aujourd'hui le modèle américain, hein, qui s'appuie sur une politique monétaire qui ne cesse d'appuyer sur l'accélérateur et d'injecter du carburant dans l'économie. Et sur une politique budgétaire également, qui, pour l'instant, ne donne aucun signe de restriction budgétaire. Alors, la grande question actuelle, c'est le fiscal cliff, cette fameuse falaise budgétaire. Beaucoup d'indices nous disent clairement que les autorités américaines ont compris les risques en ce moment qui pèsent sur l'économie mondiale, qui sont beaucoup plus des risques à la japonaise de déflation que d'hyperinflation. Et dans ses conséquences, même si la gestion des dépenses publiques doit être une priorité, elle n'est pas l'ultime priorité pour les Américains pour l'instant. C'est la resolvabilisation des agents privés, essentiellement des ménages. Et tant qu'on n'a pas des ménages suffisamment costauds pour prendre le relais, les Américains n'iront pas et ne s'engageront pas vers la rigueur budgétaire. L'Europe fait le choix à l'opposé.
Mais est-ce que les agents privés en Europe, et notamment en France, sont véritablement très endettés ? Ce n'est pas certain.
C'est moins le sujet.
C'est moins le sujet. Donc, François Meunier, donc, vous pensez que l'Europe a d'autres choix possibles que de tenir sur ce cap de la rigueur budgétaire. Certains économistes prétendent qu'au bout de 2-3 ans, après que ça ait fait bien mal, ça permet de faire revenir une croissance plus saine.
Je suis quand même assez largement d'accord avec le diagnostic de Pierre. Donc les deux remarques que je fais sont là pour stimuler le débat en quelque sorte. Le premier, c'est qu'il n'est pas quand même facile de tirer une recommandation de politique économique de ce que dit Pierre. On sait que l'Europe fonctionne dans un cadre non coopératif. Et donc celui qui veut aller contre la tendance, en fait, sert sur ses frêles épaules à éponger finalement l'ajustement des autres pays. Et donc la France, d'ailleurs, elle ne le fait pas. La France a guère de choix que de suivre la foule, même si c'est dans une course vers le bas. C'est un point important. Alors la France ne le fait pas. Je crois qu'il faut quand même prendre la mesure de ce qu'est le pacte de compétitivité et ce qu'il représente comme changement radical.
Disons, la pensée économique, enfin, du pouvoir.
Oui, de philosophie en matière de politique économique. La seconde remarque, c'est que la zone euro présente une caractéristique, c'est cette polarisation entre, disons, nord-sud, pour faire simple, avec des pays en fort excédent. La thèse de Pierre, c'est que au fond, les déficits publics ne nourrissent pas des excédents privés. Enfin, bon, quand on additionne déficit public ou l'épargne publique et puis l'épargne privée, ça donne le solde commercial. Bon. Le solde commercial allemand est en excédent massif et à 60% tourné vers les pays de la zone de l'Union européenne et essentiellement de la zone euro. Autrement dit, il y a un pays en excédent qui absorbe, qui est en excédent d'épargne et donc qui a besoin d'avoir des gens qui sont et des pays qui sont en déficit d'épargne. Ce déséquilibre est majeur, on sait qu'il n'y a pas possibilité d'ajuster par les taux de change et donc une recommandation de politique économique, mais elle est vaine, ce serait que les Allemands appuient enfin un peu sur l'accélérateur, ce qu'ils se refusent à faire.
Absolument.
Pierre Sabatier.
Alors tout ça repose sur une idée qui fait référence en ce moment et qui a sans doute orienter et pousser les pays d'Europe du Nord à s'orienter vers des politiques de rigueur budgétaire. Ce principe, c'est le principe ricardien. Donc, qui voudrait que, lorsque on envisage des politiques de rigueur budgétaire, c'est-à-dire de compression des dépenses publiques, ce serait compensé, en fait, par un comportement de désépargne des agents privés, à savoir les ménages et entreprises puiseraient donc dans leurs réserves pour compenser et continuer à consommer et investir. Tout ça en anticipant, finalement, une baisse de l'impôt qui, in fine, serait permise par, je dirais, la baisse des dépenses
publiques. Alors qu'il ne se comporte pas ainsi.
Alors que c'est absolument pas vrai. Alors, ça a été vrai au cours des 50 dernières années, mais lorsqu'on regarde les États-Unis, on peut s'interroger. Aujourd'hui, la dépense publique américaine est clairement la conséquence de l'évolution de l'épargne privée. C'est comme ça que les politiques américains gèrent leur économie. C'est-à-dire, lorsque les politiques américains estiment que la dépense privée, les ménages, les agents privés sont suffisamment solides pour permettre à la croissance de s'auto-entretenir, à partir de là, automatiquement, on diminue les dépenses publiques et on réduit la voilure pour s'autoriser, lorsque cette dépense privée, ces agents privés seront en difficulté, de réappuyer sur le champignon lorsque c'est nécessaire. Donc la vraie question, je crois qu'on fait en gros quelle est la poule et l'œuf, hein. On a véritablement un vrai débat politique, philosophique, économique qui est de dire est-ce qu'aujourd'hui la dépense privée et les agents privés sont en mesure de puiser dans leurs réserves, donc de désépargner pour compenser l'augmentation de l'épargne publique qui revient à diminuer les dépenses publiques. Le constat, c'est absolument pas vrai. Donc la notion de multiplicateur budgétaire a été complètement sous-évaluée, y compris les institutions internationales que sont le FMI qui avait recommandé des politiques de rigueur budgétaire assez drastique en Europe, a fait son mea culpa, certes discret, mais l'a fait. En disant quoi ? En disant que nous avons sous-estimé finalement l'effet d'entraînement d'une politique de rigueur budgétaire lorsque les ménages et les entreprises sont en situation difficile. Lorsqu'on a un multiplicateur budgétaire supérieur à 1, ça veut dire qu'à chaque tentative d'augmentation, enfin de réduction des déficits publics, on entraîne un comportement non de désépargne des agents privés, mais de surépargne des agents privés. C'est-à-dire que finalement, plus on va mettre de la rigueur budgétaire, plus les ménages et les entreprises vont réduire la voilure, vont moins consommer, moins investir. Sauf que notre croissance, la richesse qu'on crée dans notre pays, repose dépenses des ménages plus investissement, à peu près à 80%, tout ça repose. Donc la richesse qu'on crée chez nous repose sur la dépense des ménages et sur l'investissement des entreprises, à raison de 3/4, 1/4. Donc si vous squeezez via des politiques trop drastiques de rigueur budgétaire, bien sûr c'est un objectif à moyen long terme. Et là, la question qu'on se pose, c'est la question du rythme. Donc si vous le précipitez, vous prenez le risque finalement de faire rentrer votre économie dans un cercle vicieux qui fait que c'est la Grèce.
Spirale
négative. À chaque fois qu'on essaye de réduire le déficit public, mais au final, ça aboutit à quoi ? Une réduction encore plus drastique de la richesse créée qui s'appelle le PIB. Et in fine, on se retrouve avec des taux d'endettement public en Grèce qui tournent autour de 155 points de PIB, qui l'année prochaine ou dans deux ans pourraient déjà retrouver des niveaux de 160 points de PIB.
Est-ce que la Grèce n'est pas le mauvais exemple ? Parce que sa situation d'aujourd'hui repose sur des phénomènes qui ne sont pas comparables aux autres pays européens. François Meunier, c'est triste pour la Grèce, mais est-ce que c'est vraiment un pays qui peut illustrer cette théorie de l'effet multiplicateur, en quelque sorte, des déficits publics ?
Alors, je vais être un peu calviniste.
Allons-y.
Il faut quand même voir la réalité institutionnelle et politique. C'est vrai que c'est mieux de faire de l'ajustement de finances publiques, du marché du travail, etc., quand tout va bien. Mais la réalité, c'est qu'on fait en général ce type de réforme douloureuse, ouais, politiquement terrible, que quand on a le dos au mur. Bon, et ce à quoi on assiste, eh ben, c'est que les Grecs ont le dos au mur, les Espagnols ont le dos au mur, les Français, quelque part, ne sont pas loin d'avoir le dos au mur. Et donc, c'est ça qui est l'aiguillon à faire le changement. C'est pro-cyclique, soit, mais c'est un peu inévitable. Sur la Grèce, plus précisément, je me réfère à un graphique tout à fait intéressant de l'étude de Primeview, qui est l'état de la consommation privée depuis 2002. Et on s'aperçoit qu'en 2012, ils rejoignent le niveau en Grèce, c'est vrai aussi au Portugal, c'est vrai en Espagne, c'est vrai pour d'autres raisons, je pense, en Italie. Bon. Mais, il y a un gros mais, c'est qu'avant de rejoindre le niveau de 2002, ça passe par plus 25%.
Ouais.
Bon, j'ai fait un petit calcul. En moyenne, la conso privée des Grecs a été 10% supérieure sur la période. 10% sur 10 ans, ça fait une année de conso. Une année de conso qui est, pardon de le dire, gratuite, puisqu'ils ne rembourseront pas leurs dettes. Autrement dit, les Grecs se sont offerts jolie partie et ont acheté des voitures allemandes, ont acheté des vêtements, des maisons, équipé leurs maisons, etc. Ils doivent quelque part s'en féliciter. Et donc, le mouvement qu'il y a maintenant, à nouveau, c'est un petit peu rigoriste comme point de vue, c'est un peu ce retour à une moyenne. Il était anormal qu'en 4 ans de temps, le PIB ou la conso privée...
Et ça, c'est un élément que les médias mettent très, très rarement...
En Allemagne, ils le mettent en avant.
Oui, c'est ça. Et en Allemagne, bien sûr, ils le mettent en avant.
Alors, moi, ce qui me gêne, en fait, dans ce genre d'argument, c'est que c'est essentiellement, à mon sens, de la morale. C'est-à-dire qu'effectivement, les Grecs ou les Espagnols, parce que les Grecs, c'est effectivement un exemple qui est tellement caricatural qu'il est facile à manipuler, puisqu'il est facilement compréhensible. Mais globalement, derrière ça, moi, je veux bien, sauf que lorsqu'on fait de l'économie, tout ce qu'on dit jusque-là, c'est si on décide effectivement de continuer d'appliquer des politiques procycliques, une politique procyclique, ça veut dire qu'on va accélérer le cycle, je mets en garde sur les dommages collatéraux que ça peut faire. Hein. On a eu des exemples dans le passé. Hein. La Grande Dépression, c'est exactement ça. C'est des politiques procycliques qui ont entraîné l'économie dans un cercle autodestructeur qui s'appelle un suicide collectif. Donc moi, je veux bien qu'on mette de la morale. Je sais que les Grecs ont fait n'importe quoi. Les Espagnols ont sans doute surconsommé par rapport à leurs moyens. Si on accepte un retour à la moyenne ou à leur propre normale très rapide, les Français et les Allemands en souffriront énormément. Maintenant, je vais faire un parallèle, parce qu'on est focalisé sur l'Europe. Regardons le pragmatisme américain, encore une fois.
Mais enfin, les Américains, Pierre, ont quand même une situation qui est enviée par le reste du monde. C'est qu'ils sont en situation paradoxale avec leur monnaie. Ils ont le dollar, c'est-à-dire que ça change légèrement la donne.
Non, mais au-delà du dollar, non, ils ont déjà des autorités qui ont une lecture singulièrement différente de la nôtre. C'est avant tout ça, avant d'avoir bien sûr une monnaie de référence qui leur permet d'avoir des déficits
exorbitants.
Mais derrière ça, la situation, lorsqu'on la regarde dans le détail, parce qu'on regarde les États-Unis comme un pays monolithique, unique, comme on pourrait voir l'Europe et la zone euro. La zone euro aujourd'hui, c'est globalement la comparaison des États-Unis et chacun des États est un État américain. Vous regardez la situation des comptes publics et la situation également des comptes privés de certains États américains, ils sont autant en difficulté que l'Espagne ou la Grèce. Oui. Sauf que les États-Unis font un choix beaucoup plus coopératif, entre guillemets. Les États-Unis, dans son ensemble, ont un sens, ont une réalité qu'en Europe, nous n'avons pas.
C'est ça,
et le drame de tout ça, c'est qu'on s'oriente vers des politiques procycliques qui n'améliorons pas la situation. L'essentiel de l'amélioration de la situation ne vient pas des politiques économiques qui ont été mises en place, mais enfin du choix de la BCE de jouer son rôle de prêteur en dernier recours. Ça évite l'arrêt cardiaque. Mais globalement, à, je dirais, préconiser des remèdes aussi violents que des compressions de dépenses publiques qui aboutissent à la compression de dépenses privées, on risque, je dirais, d'augmenter le mal, à savoir que le cancer soit un peu plus grave que la
situation. Alors, on disait que la Grèce est un petit peu atypique par rapport à l'exemple. Est-ce que la France, par rapport à ses dépenses publiques, justement, n'est pas aussi un petit peu atypique par rapport aux autres pays européens ? Est-ce qu'on peut imaginer, et je pose la question aux deux économistes que vous êtes, c'est-à-dire que de faire revenir la dépense publique française, enfin, bien sûr, sur un certain, à moyen terme, hein, avec un profil, on va dire, de gagner entre 5 et 10 points, sans pour autant totalement gripper la machine et les moteurs de l'économie française. Est-ce qu'on peut réduire la dépense publique en France, qui est quand même à des niveaux bien supérieurs à la moyenne européenne et l'OCDE? On peut néanmoins faire tourner encore le moteur économique. Enfin, je pose la question à François Meunier. C'est ça la vraie question.
Je ne recommandais pas d'appliquer la médecine grecque à l'ensemble du monde, certainement pas. Ce que je voulais dire, c'est que probablement, en matière de politique économique, il est plus sain de barrer, d'annuler une grande fraction de la dette grecque, mais de continuer à exercer une pression drastique, parce qu'au fond, à long terme, ça sert les Grecs. Bon. Et d'une certaine façon, ça peut servir, si on applique ça, en Espagne. Il faut noter le cas du Portugal, qui suit une politique économique extrêmement sage, c'est-à-dire qui s'appuie sur, disons, ses règles calvinistes pour faire des changements politiques qu'il n'a jamais envisagés au cours des 20 ans passés. Ouais. Sur la France, le danger de la France, c'est que le thème restriction de dépenses publiques soit vu sous l'aspect, on pourrait dire, de la toise. C'est-à-dire, allez, on exerce une pression uniforme, et puis tout le monde s'y retrouve, et puis on grignote ici ou là quelques centimes, quelques dizaines de milliards d'euros. Mais l'enjeu politique présent, c'est de faire des choix. C'est-à-dire de dire et de présenter au pays,
clairement,
voilà ce que nous jugeons important, ceci est moins important, et donc nous avons matière à couper, premièrement. Et deuxième choix qui est redoutable, le gouvernement précédent l'avait un peu fait avec la revue des politiques publiques, c'est la machine étatique, est-ce qu'elle fonctionne au mieux de la productivité. Ouais. Si elle est en sous-productivité, on dit que c'est bien parce que ça fait des emplois, mais c'est mal parce qu'il faut bien financer ça, et c'est le secteur privé qui finance, et c'est globalement la compétitivité de l'économie qui est affectée. La compétitivité, c'était le thème d'une émission précédente, la compétitivité est un phénomène global.
C'est pas simplement le coût ou le hors-coût, etc. Peut-être pour Pierre,
Pour rebondir juste sur la chose, moi je suis totalement d'accord avec le fait d'optimiser l'outil de production publique. Il n'y a, à mon sens...
C'est incontournable.
En fait, l'important n'étant pas d'être d'accord avec ça, c'est de dire quels sont nos objectifs de temps, dans quel délai on peut raisonnablement l'imaginer sans avoir dommages collatéraux qui feraient que la situation finale est plus compliquée que la situation initiale. Derrière cette question, il y a quand même une autre question qui est cette fois beaucoup plus politique, à savoir la capacité à l'imposer et à le faire dans notre pays. Et alors ça, globalement, on sort de problématiques économiques. Là, on pourrait discuter sur le fait que l'opportunité d'une crise, c'est effectivement les gens sont un peu plus psychologiquement prêts à vivre des ruptures. Voilà. Mais donc là, on est dans un autre cadre. C'est qu'est-ce qui est souhaitable de faire, à savoir optimiser et faire de la productivité dans l'outil de production publique. À n'en pas douter, ce sera bénéfique pour tout le monde. Maintenant, comment l'imposer, voilà, à quel rythme, ça, c'est un sujet...
Alors peut-être ce que disait, était très juste François Meunier, à savoir qu'il faut maintenant donner une ligne directrice extrêmement claire, qui pour l'instant n'apparaît pas de façon aussi claire qu'on pourrait l'espérer. Et notamment, on note deux incohérences, on terminera peut-être là-dessus. La première, qui me paraît, de mon point de vue, flagrante, c'est la politique, l'incitation à l'épargne. Enfin, on comprend assez mal en quoi, qui va rejoindre ma deuxième question concernant la BPI, en quoi, hormis les engagements électoraux, qu'on peut comprendre, mais les engagements électoraux se heurtent toujours ensuite à la réalité. Inciter le développement du livret A, le déplafonner, et donc donner une prime à l'épargne liquide et sans risque, alors qu'on a besoin essentiellement de financer les capitaux propres des entreprises, est-ce bien raisonnable? Et donc dans le même, c'est la question que je vous pose à tous les deux, et dans le même prolongement, avait-on besoin d'une banque publique d'investissement dans ce contexte-là, qui d'ailleurs ne fait que réunir un certain nombre de procédures et d'établissements existants. Alors, incitation de l'épargne.
Il est évident qu'aujourd'hui, ce n'est pas très utile. Mais bon, après, les deux questions reviennent quand même à des considérations qui sont éminemment politiques, dans un premier temps. Donc, globalement, sur le livret A, non, l'objectif qui devrait être clairement affirmé par l'autorité actuelle, le gouvernement actuel, c'est... L'objectif in fine, c'est orienter l'épargne longue vers des investissements longs. Donc, au contraire, mais là, j'irais plutôt vers des incitations du type PEA-PME. Là, pour le coup, c'est une bonne chose. C'est une incitation fiscale intelligente. Jusque-là, d'ailleurs, l'efficacité du PEA global, c'est-à-dire est-ce que les entreprises du CAC 40 ont besoin de ce genre d'incitation, j'en étais pas sûr. Par contre, les PME, de manière certaine, ont besoin de cette épargne longue. Donc, multiplier finalement, non ce qu'on appelle les niches fiscales, mais le fléchage fiscal pour permettre à l'épargne longue donc de s'orienter vers des investissements longs, notamment essentiellement via des PME, parce que c'est elles sur lesquelles on pourra s'appuyer pour faire l'innovation, pour gagner en compétitivité à l'export, mais aussi celles qui créent des emplois beaucoup plus dans notre pays.
Et peut-être tout simplement redonner confiance aux actionnaires, qui soient, je ne sais plus combien de millions d'actionnaires ont déserté,
il n'y en a pratiquement plus.
Et voilà, donc c'est quand même un certain nombre d'incohérences, donc ça rejoint ce que disait François Meunier. Alors, la BPI, c'est un autre sujet ça.
Oui, encore que ça traite du financement de l'économie. Il y a un exemple de succès incontestable, c'est la BERD, Banque Européenne de Reconstruction et de Développement. C'était imposé par Mitterrand en 1991 sur une idée d'Attali et qui marche. Et qui marche, qui est très profitable. Ils ne le disent pas, mais ils sont très profitables. Et ils sont gérés au cordeau. Mmh. Il y a une gouvernance extrêmement claire, pointue. Et ils font le rôle de prêteurs sur des projets à risque dans les pays de l'Est, et puis maintenant Maghreb, Moyen-Orient, etc. Voilà. Autre exemple, ça a été toutes ces banques de reconstruction de l'après-guerre, hein, Crédit National, Mediobanca en Italie, etc. Ça montre que, dans certains cas, l'initiative publique est victorieuse. Ça peut marcher. Mais à chaque fois, c'est lorsqu'il y a une carence complète du système financier traditionnel et que les économies sont relativement simples. Il faut reconstruire des routes, des hôpitaux, etc. Pour une économie aussi développée et sophistiquée que la nôtre, a-t-on besoin d'une banque publique d'investissement ? J'ai quelques doutes à deux titres. Premièrement, la gouvernance me semble improbable. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un noyau dur, convaincu qu'il faut des projets rentables et qu'il faut sauver les fonds propres de la banque. Hein, le fait que ce soit éparpillé dans les conseils régionaux avec évidemment un ensemble de caciques qui iront toujours chercher
qui
un petit peu de monnaie.
Qui iront forcément vers eux.
Très complexe. Et espérons que la sagesse prévale et que la gouvernance soit saine. L'autre chose, c'est que l'expertise du crédit est au sein des banques. Et donc, si l'État a raison, faisant le constat d'une certaine tiédeur des banques à assumer du financement de PME ou du financement start-up, veut prendre ça sur son bilan, c'est tout à fait sain. Mais qu'il le fasse en reconnaissant que l'expertise crédit est dans les banques et le canal de distribution est dans les banques. Quand l'assurance crédit a joué aux abonnés absents lors de la purge conjoncturelle de 2009, le gouvernement n'a pas fait un assureur crédit public. Le gouvernement a fait ce qui s'appelait le CAP. Voilà. C'est-à-dire un relais par lequel, en respectant les canaux de distribution, eh bien, il y avait un financement sur risque public et l'expérience a été plutôt un succès. Et donc, on pourrait penser qu'il faudrait plutôt répliquer ce type de schéma plutôt que de faire aller une banque Théodule dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, espérons-le, une berde.
Alors écoutez, ce que je retiens, ça sera le dernier mot peut-être de cette émission, ce que je retiens de vos deux interventions, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de bonne volonté et qu'il est difficile de faire autrement, mais que par contre, en tout cas pour ce qui est de la France, il s'agit de clarifier les choix, on ne peut pas tout faire en même temps, et ne pas s'en tenir simplement aux promesses électorales, voir aussi quelle est la réalité d'aujourd'hui qui reste complexe. Si vous aviez un dernier mot, chacun, ben vraiment très très le dernier mot, on arrive à la fin de l'année, c'est le moment des vœux. Quel serait le vœu que vous feriez chacun pour l'économie française ? Restons un petit peu chauvin. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir si vous aviez un vœu à faire, Pierre Sabatier ?
Clairement, pour que l'horizon s'éclaircisse, et il ne s'est toujours pas éclairci, à mon sens, ça ne se produira pas à partir du moment où on ne sera pas en mesure de mettre des stratégies coopératives, commerciales notamment, en Europe globalement. Et d'accord. Donc, mon souhait, c'est de la coopération économique. Sans ça, l'Europe s'orientera, à n'en pas douter, vers des horizons qui seront relativement sombres.
Et François ?
Que le gouvernement soit clair, transparent sur sa stratégie d'assainissement des finances publiques.
Voilà donc pour nos vœux de fin d'année. Merci à nos deux économistes, merci au Cercle Turgot et à une prochaine émission. À très bientôt, merci.